Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 32e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libres en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. Aujourd'hui, nous allons découvrir un extrait du dernier roman de Villerval. Villerval, auteur dramatique et romancier, est né à Lens, dans le Pas-de-Calais, et il vit en Dordogne depuis 2003. Enseignant et dirigeant associatif, il s'implique depuis toujours dans la vie culturelle locale et milite pour une société plus humaine, promouvant la sobriété écologique et numérique. Son premier roman, Comme un papillon qui s'est brûlé les ailes, a été publié aux éditions Lucien Souni, son deuxième Fou de rage aux éditions Hervé, et l'extrait que je vais lire est tiré de Sec qui sera publié aux éditions Alter Réal en février 2026. Sec est un thriller dans lequel les lecteurs retrouveront ces deux personnages récurrents, les gendarmes Victor Ducasse et Violette Dessault. Bonne écoute. Le maire grimace en regardant les contenants plus ou moins volumineux dont se sont munis les villageois. Si on fait un calcul rapide, on se rend compte qu'il va y avoir des mécontents. Deux citernes de 15 mètres cubes à diviser par 3000 habitants, cela ne fait jamais que 10 litres d'eau potable par personne. En plus, il va falloir compter sur la bonne foi de chacun. Celui qui annoncera qu'il a 6 membres à la maison emportera 60 litres. Seuls d'éventuels voisins pourront le contredire. Il est possible, et même probable, que les derniers ne pourront pas être servis. Quand ils s'en rendront compte... Et demain sera pire, car tous seront alors au courant qu'il y en a qui trichent au détriment des autres. Comment faire? Les services de la mairie n'ont pas eu le temps de calculer le nombre de résidents par habitation et de faire parvenir le bon nombre de tickets de 10 litres par famille. À vrai dire, le maire n'en a même pas encore donné l'ordre. Jusqu'à ce matin, il espérait que le propriétaire du captage, après avoir fait constater son droit, aurait ouvert les vannes et serait venu le rencontrer. Et cela ne s'est pas produit. Maintenant, il doit prendre ses responsabilités. Il grimpe sur une citerne pour être bien visible et parle à travers un porte-voix.
Mesdames et messieurs, vous avez constaté comme moi que l'eau courante n'est pas revenue et que nous allons devoir distribuer une première aide d'urgence. Je dis première, car je n'ai aucun élément qui me permette d'affirmer que la situation va évoluer favorablement dans les prochaines heures. Je n'ai aucune réponse à mes messages de la part du propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve le captage, qui jusqu'ici alimentait notre commune. Avec monsieur le préfet, dans le temps court qui nous est imparti, nous avons pu réunir ces deux citernes. Chaque personne, adulte ou enfant, jeune ou âgé, a droit à 10 litres par jour. Des voix l'interrompent. Et mon chien? Mes chats? Mes poules? Mon poisson rouge? Je vous en prie, je parle des humains.
Et ma belle-mère, ça compte pour un humain?
Et toi, naine, depuis quand t'as besoin d'eau? Tu te laves jamais et tu bois que du picrate?
Un éclat de rire secoue la foule. Le maire s'essuie le front. Il préfère cette humeur bon enfant, pourvu que ça dure. Il reprend.
Je vous en prie, laissez-moi finir. Pour ce qui est du âne, je crois déjà l'avoir vu certains matins prendre un café salé ou deux. Il lui faut donc de l'eau aussi, au cas où.
Juste un flacon alors à mettre dans l'armoire à pharmacie en cas d'urgence.
Un nouvel éclat de rire couvre un temps la voix du maire qui reprend ses explications.
Pour quelques jours, puisque nous avons la chance qu'il pleuve, je vous recommande d'abreuver vos bêtes avec de l'eau que vous pouvez récupérer ailleurs, sans qu'elle soit garantie potable. D'autres citernes visiteront les exploitations pour les animaux d'élevage. J'insiste sur le fait de ne pas dépasser la ration à laquelle vous avez droit. Sinon, tout le monde ne pourra pas être servi. En tout cas, ces premiers jours, je sais pouvoir compter sur votre sens civique. Cette situation ne durera pas. Je crains tout de même que ces tout prochains jours, nous soyons contraints de la même façon. Je vous tiendrai informé au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Merci. Encore quelques rires, mais aussi des grognements et des cris ponctuent un temps l'intervention de l'élu, tandis qu'il redescend de sa tribune improvisée. Le major du jardin se dresse à ses côtés. Le policier municipal, qui connaît à peu près tout le monde, se tient au début de la file. Il prend soin d'accueillir chacun par son patronyme.
C'est aussi une façon de limiter les fraudes. Près des citernes, un agent de la commune distribue l'eau, au plus juste, sauf qu'il jauge à l'œil. Comment faire autrement? Il se base surtout sur une estimation du volume du contenant qui lui est présenté. Les gendarmes patrouillent d'un air nonchalant le long de la foule. Surtout, ne pas donner l'impression que les autorités ne font pas confiance à la population. Gégé et Choupette reviennent de la cafétéria. Ils assistent à cette scène surprenante où une foule, plutôt disciplinée, fait la queue avec dignité pour un peu d'eau. Ça leur rappelle des images de malheur et de détresse. Ils trouvent ça poignant. Ils s'avancent vers Dubois qui se tient près de leur vélo. Gégé lui tend un gobelet de café. Le gendarme, contrarié, refuse d'un signe de tête. Gégé insiste en lui démontrant que le major, trop occupé avec le maire, ne peut le surprendre. Choupette remplit la même mission auprès de Dessau. Violette et Thierry boivent avec un évident plaisir ce café offert, quoique déjà un peu refroidi.
« C'est la première fois, mon Gégé, que je te vois aussi sympa avec des gendarmes. »«
Ils se sont montrés plutôt cool et on les a bien fait chier, faut reconnaître. »
Appuyés contre leur bécane, ils regardent défiler la foule comme des vaches contemplent le train qui traverse l'horizon. Ça leur fait une occupation. Ils détaillent et commentent tout. Les divers récipients, les vêtements, la forme des silhouettes et les expressions. Et puis arrive le moment fatidique où les citernes sont vides alors qu'il reste des habitants à servir. Pas beaucoup, en fait, ça aurait pu être pire. Elles sont cinq, que des femmes, avec des fichus bariolés à se regarder dépités. À l'évidence, ce ne sont pas les plus vindicatives. Plutôt des timides, de celles qui ne se sentent jamais à leur place, qui ne sont jamais assurées de leurs droits, qui s'excusent plutôt qu'elles ne réclament. Toutefois, le maire réagit bien. Il demande à l'agent municipal de prendre leur nom et adresse et promet que la citerne qui aura porté l'eau aux élevages passera dans la journée à leur domicile. Puis, suivi du major, il pénètre dans la mairie toute proche. Les gendarmes dans la camionnette repartent aussitôt. Thierry et Violette attendent qu'il n'y ait plus personne sur la place. L'employé communal achève de relever les coordonnées de ces pauvresses restées bredouilles. Il marmonne dans sa barbe.
Seulement après les gens normaux et les animaux, l'eau pour les romanos.
Et pour les fachos, c'est de la salaud ?
S'écrie Gégé. L'autre se retourne, mauvais. Thierry Dubois s'interpose. Il lui explique qu'il a intérêt à s'écraser. Si ses propos discriminants venaient à être rapportés au maire, il serait probablement viré. Tout le monde s'égaye, la tête des mauvais jours, à part les gendarmes et le couple. Violette s'approche de ce drôle de tandem.
« Vous avez un nouveau copain, je crois. »« C'est comme ça. Mon Gégé peut pas supporter l'injustice, le racisme ou la bêtise. »«
Et vous n'avez pas eu d'eau non plus, » note la gendarme.
« Oh, nous, c'est pire que les romanos. On n'existe pas. On nous calcule jamais. »«
Nous, je crois qu'on vient après les chasses d'eau, »
remarque Gégé.
« C'est parce qu'on fait chier. »«
Ça, on peut pas dire, » avoue Thierry, un sourire en coin.
« Faites pas attention à ce qu'il dit, » corrige Violette. « Vous comptez rester un peu ?»
Au moins cette nuit, il faudrait qu'on trouve une prise pour nos batteries d'ailleurs. Est-ce que vous savez où on peut se poser après ?
Il y a un camping dans le coude de la rivière, là-bas, enseigne Thierry.
Il faut payer ?
Bien sûr. Vous connaissez quelque chose de gratuit, vous ?
L'air, l'eau des ruisseaux, les espaces publics ?
Sinon, il y a le chemin de halage au-delà de la zone habitée,
précise Violette.
C'est trop éloigné. Je sais que nous sommes paradoxaux, mais... Nous aimons être à l'écart tout en restant avec les autres. Sinon, est-ce qu'il y a des chemins balisés un peu jolis par ici ? En attendant que nos vélos se rechargent, ce serait bien de faire une balade, non, Choupette ?
Tant qu'il y a du tabac, on va où tu veux. Vous pourriez monter sur la colline par le sentier qui démarre après la caserne des pompiers. Il fait tout le tour par les crêtes. Il y a de jolis points de vue sur la rivière et la plaine entre deux bois.
Ça m'a l'air pas mal. Merci du renseignement, madame la gendarme.
Merci à vous pour le café. Ce n'est pas souvent que nous faisons l'objet d'attentions aussi chaleureuses.
Pourtant, il aime pas la bleusaille, je peux vous le dire.
Violette éclate de rire et Thierry est scotché par cette franchise. Ils n'arrivent pas à décider s'ils sont un peu cons ou provocateurs. Le gendarme reprend.
C'est d'autant plus méritoire.
Quand vous aurez achevé votre randonnée, passez donc à la gendarmerie, on vous refilera un peu d'eau si vous voulez.
Forcément, comme on n'a pas pu faire la queue, la citerne va passer par la brigade.
C'est bien aimable. « Nous verrons. Je ne suis pas certain que mes gens m'obéissent si je leur demande d'aller à la gendarmerie. »
répond Gégé avec une moue dubitative.
Bonne journée.
Après avoir rangé à nouveau leur vélo sous la halle, dans un coin où une prise est disponible, le couple se met en marche vers les vieilles rues du bourg sous le regard mi-amusé, mi-interrogatif des gendarmes. Chapitre 4. La Roquette, vendredi 16 octobre, 16h30.
Ouf, qu'est-ce que ça grimpe !
Fume pas.
Ça grimpera quand même.
Tu seras moins essoufflé.
Toi aussi, tu souffres.
Moins que toi.
Non, c'est moi !
Crache Choupette avec une voix enfantine.
D'accord, tais-toi et marche.
Ils progressent péniblement sur la côte étroite, l'un derrière l'autre, au milieu des châtaigniers, des chênes et des charmes. Ils ont débuté la balade après le déjeuner à la cafétéria. Avant, ils avaient visité le bourg avec ses vieilles rues pavées et ses façades en pierre jaune. Gégé aime suivre le balancement des fesses bien moulées de sa compagne. Elle l'hypnotise. De temps en temps, Choupette interrompt le mouvement et s'arrête au pied d'un bouquet de châtaigniers. Ils ramassent alors de belles châtaignes dont elle est friande en les sortant de leur bogue piquante du bout de la chaussure. L'automne est bien présent. Les feuilles changent de couleur et certaines jonchent déjà le sol. Il fait pourtant assez doux et le chemin n'est pas détrempé malgré les averses récentes. Parfois, il faut contourner une flaque un peu plus conséquente. À certains endroits, des bosquets de ronces qui ont poussé, serré, défendent l'accès au sous-bois. À d'autres, des buissons de genêts dressent leurs balais de belle-mère et, parsemés de ci, de là, des genévriers présentent leurs petits fruits odorants. Gégé adore cette odeur de baies de genièvre et ils en cueillent quelques-unes qu'il fera sécher. Ils les utiliseront plus tard en cuisine pour des plats parfumés. Ils arrivent au sommet, sur une espèce de plateau. Vers l'ouest, ils découvrent la plaine cultivée qui borde les méandres majestueux de la rivière. Au loin, se confondant avec le gris du ciel, il semble que la dernière courbe rejoint un autre fleuve. Devant eux, il doit y avoir un chantier important. Ils entendent de façon nette les hoquets de lourdes machines. Une coupe, sans doute. Au-delà des trépidations et des bips plus aigus lorsque les engins font marche arrière, des vrombissements sourds semblent tomber du ciel. L'écho, sans doute.
Même ici, à des bruits de moteur.
Ça ne vaut pas le coup de se fatiguer à monter.
On aurait été aussi bien au bord de la route.
Je sens même le gasoil,
marmonne Choupette en rallumant son bout de cigarette.
Non. C'est le gaz de ton zippo.
C'est le gasoil, je te dis.
Choupette tourne lentement sur elle-même en reniflant comme un chien de chasse. Elle s'immobilise en dirigeant son index dans une direction un peu sur la gauche.
Là-bas, un bulldozer.
Bravo. Tu sais, un kleps à l'arrêt s'adresse aussi la queue.
Ça te manque ?
Non, ma choupinette en sucre, je te préfère comme ça. Viens, ma belle.
Joueuse, Choupette, en levant les bras et les genoux avec grâce, rejetant de discrets coups de tête vers l'arrière et sa mèche de cheveux sur le côté, se précipite vers lui, qui se penche vers elle. Une vraie pub pour Croquette. Elle lui saute au cou en jappant avec joie et le renverse. Ils se retrouvent dans l'herbe et s'embrassent.
« Choupette, sage !»
répète-t-il en lui flattant le flanc tandis qu'elle lui lèche le visage. Il ramasse un bâton au sol et le lance au loin.
« Allez, va chercher !»
Choupette dédaigne le bout de bois et reste sur lui. Il sent une main descendre vers son entrejambe et baisser la fermeture éclair de sa braguette.
« Je préfère ce bâton-là. »«
Non, Choupette, pas ici. »«
Pourquoi pas ici ?»«
C'est trop humide. »
Gégé se dégage, se remet debout et se réajuste. Il époussette sa compagne. Des feuilles mortes et de la boue se sont collées sur ses vêtements. Elle lui rend l'appareil.
« Ça réchauffe, » dit-elle. C'est vrai qu'il ne fait pas chaud par terre.
Ma Choupette, toujours aussi folle dingue de moi après toutes ces années. C'est chouette.
Il se remet en route en scandant
« Choupette, c'est chouette ».
Elle le rejoint avec un grand sourire et lui prend la main. Ils continuent leur promenade, côte à côte, maintenant que le chemin s'est élargi. Bientôt, ils arrivent au bord du chantier. Des pelleteuses creusent une grande excavation. Un panneau les renseigne sur la nature des travaux. Le camping international de la Roquette, qui a colonisé la colline depuis le village voisin, creuse ici un lac artificiel pour offrir de nouvelles activités à sa clientèle.
« Un lac en haut, sans rien pour l'alimenter !»
s'étonne Choupette.
Ils ont peut-être un système pour capturer les nuages et les essorer juste au-dessus de la cuvette ?
Toujours aussi poétique, mon Gégé. Mais je ne pense pas que les propriétaires de ce goulag à touristes le soient. Ils ont sûrement trouvé une solution plus pragmatique. Ils ont dû prévoir d'amener l'eau d'une manière ou d'une autre.
C'est ça, les grands entrepreneurs, ils savent faire. Moins il y a d'eau et plus ils en consomment. C'est la fameuse théorie du ruissellement.
Tiens, regarde, tout le monde n'est pas d'accord.
À la limite du chantier, tourné vers une clairière qu'il s'apprête à traverser, il y a une banderole sur laquelle s'éclatent des lettres en rouge « Non au pompage de l'eau préhistorique !» signée « Association de défense de la nature de Nouvelle-Aquitaine, AD2NA ».
C'est quoi de l'eau préhistorique ?
De l'eau minérale, de l'eau de l'âge de pierre, quoi.
Ça se boit ?
En tout cas, ça a l'air de pouvoir se pomper.
Ils ont un truc avec l'eau dans le coin.
On va pas traîner ici, Choupinette. Demain, on se barre.
Je suis d'accord. Sinon, je te connais, tu vas vouloir y mettre ton grain de sel.
Pris d'un mauvais pressentiment, ils se mettent à marcher plus vite, l'un derrière l'autre, parce que les ornières profondes creusées par les larges chenilles rendent malaisée une progression de front. Ils ont fait à peine 300 mètres dans la descente que, sur leur gauche, ils entendent des branches craquer et des fourrés éclater. Le sol tremble sous leurs pieds et ils s'immobilisent. Ils font bien. Avec des grognements sourds, un solitaire, haut jusqu'à la taille, traverse un mètre devant eux. Ils l'ont échappé belle. Les sangliers mâles ont la réputation de ne jamais dévier la trajectoire de leur course. Un pas de plus et ils se seraient fait piétiner.
Belle bête! Tu crois qu'il a un train à prendre?
C'est par là la gare?
Gégé hausse les épaules. Ils se remettent à avancer, mais restent aux aguets. Ils finissent par arriver sur une vicinale qui longe une immense exploitation de noyers. Au bout, la petite route rejoint la départementale qui les ramènera au village. Il serait d'ailleurs temps parce que le soleil commence à baisser. Ils ont eu de la chance. Jusqu'ici, ils n'ont pas subi d'averse malgré un ciel bien nuageux. Des corbeaux pas beaux ou des freux affreux jettent leurs cris lugubres au-dessus des arbres qu'ils encerclent d'un vol épais et lent.
Ça bouffe des noix, les corbacs ?
Je sais pas, Gégé.
Ils sont un paquet ?
Ouais, mais les noix ont déjà été ramassées. Il n'y a plus rien que les branches.
Pourquoi ils ont laissé un épouvantail ? En effet, un peu plus loin, au milieu d'une allée, il y a une espèce de silhouette épaisse qui se balance à une grosse branche. Le repousse-moineau imite à la perfection un être humain. Il est habillé d'un jean et d'une chemise de bûcheron. Il porte un béret sur la tête et des bottes presque neuves. Gégé a la gorge qui se serre. On dirait un pendu.
Le paysan a bien travaillé. Il y a même la corde.
Je te dis que c'est un pendu, Choupette. Reviens.
Elle se fige et détaille la forme humaine.
Tu crois ? Qu'est-ce que c'est que cette balade pourrie ? Une espèce de bizutage ? C'est comme ça qu'ils accueillent les touristes par ici ?
Ils font peut-être ça seulement quand ils n'ont plus d'eau ?
Pour nous inciter à partir ? Et ils iraient jusqu'à tuer l'un des leurs ?
Non, je ne crois pas. C'est facile. Si c'est un vrai pendu, il doit y avoir de la mandragore en dessous.
De la mandragore ?
C'est une plante magique qui s'abreuve du sperme des suppliciés.
Et ça ressemble à quoi, une mandragore ?
Je sais pas.
Viens vite, courons !
S'exclame soudain Choupette.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Cours !
Gégé ne cherche pas à comprendre et file derrière sa compagne qui accélère encore en coupant à travers la plantation vers la départementale. Cette fois, il ne lorgne pas son cul. Il s'efforce juste de ne pas se faire distancer. Qu'est-ce qui l'effraie à ce point ? Après l'intersection, ils poursuivent leur course sur plusieurs centaines de mètres avant de s'effondrer, cassés en deux, un poing au côté à la recherche de leur souffle.
Gégé croit mourir.
Il y a longtemps qu'il n'a pas galopé de la sorte. Qu'est-ce qui lui a pris ? Il lève vers elle des sourcils interrogatifs et attend qu'elle puisse parler.
Dédé !
Des quoi ?
C'est Dédé !
Qui ?
Le gars qui t'a cherché des noix hier !
Celui que t'as balancé par la vitrine ?
Elle opine. Il s'écroule par terre. Que va-t-il se passer maintenant ? Qui va les croire s'ils se présentent à la gendarmerie en disant avoir trouvé, par hasard, dans un arbre, le corps d'un mec qu'ils ont défenestré la veille ?
Ma pauvre Choupette, on dit rien, on récupère nos vélos et on se tire.
Vous venez d'entendre un extrait du roman « Sec » de Villerval que vous pourrez vous procurer dans toutes les bonnes librairies dès sa sortie en février 2026. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous souhaitez me recommander des autrices et auteurs locaux et contemporains,
vous pouvez contacter RLP par mail à l'adresse radiolibresenpérigord@gmail.com ou par téléphone au 05 53 46 80 24 où vous pourrez laisser un message en précisant le nom de l'émission Le Coin Lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.